nous allons aborder ce soir un phénomène assimilant un fait juridique authentifié par les archives et les documents officiels à une épopée associant légende, mythe et intervention du surnaturel. Comme toujours, cet épisode s'est transmis, s'est modifié en se transmettant de génération en génération, en particulier lors des veillées. Ce drame a fait blêmir d'effroi bien des enfants lors des veillées villageoises autour de l'âtre, alors que la tempête faisait vibrer les frêles habitations montagnardes. Cet épisode a de fortes chances de tomber dans l'oubli, vu l'éparpillement des générations contemporaines. Il n'en demeure pas moins significatif des conditions de vie et des structures mentales d'une époque aujourd'hui révolue. Ce sera l'occasion de nous pencher sur certains aspects de la vie montagnarde et plus particulièrement sur l'utilisation des granges d'altitude au printemps avant la montée des troupeaux vers les hautes estives. Revenons au fait. Le registre d'état civil de la mairie de Sainte-Dalthouste comporte de façon tout à fait neutre la mention suivante. Le 5 avril 1855, Jean Berdier, cultivateur âgé de 19 ans, Rivière Louis Bassinet, 22 ans, Founeau Pierre Gabriel, 38 ans, Bayron Laurent Bégué, 58 ans, sont décédés accidentellement par suite d'une avalanche de neige dans leur grange au quartier d'Esbins à 4 heures du soir. Ce jour-là, selon les documents officiels, deux avalanches se détachèrent, l'une du Bouillerette, l'autre de l'Ésurs. Selon la tradition orale, l'annonce du drame se serait faite le lendemain en pleine célébration du jeudi 5, le 5 avril 1855. Ce jour-là, tous les habitants réunis dans la nef de l'église sont abasourdis lorsque le portail s'ouvre avec fracas. Après avoir essayé d'apporter les premiers secours, les quelques bergers rescapés sont revenus péniblement au village pour annoncer la catastrophe. Fort bien heureusement, pour eux, les autorités sont toutes à la messe. Bien sûr, la cérémonie est interrompue illico et le curé entreprend alors l'organisation des secours. Les hommes valides entreprirent alors la longue ascension rendue particulièrement pénible vu l'épaisseur du manteau neigeux. La légende veut que Marie Rieu, gênée dans sa progression par l'épais manteau neigeux, enleva ses sabots et marcha pieds nus dans la neige. Sur les lieux, ce fut un spectacle effroyable selon les témoins. La neige arrivait jusqu'à la cime des arbres et rendait tout espoir vain. Bien sûr, Marie, l'épouse de Laurent, montra l'emplacement des granges. Après avoir longuement fouillé, on découvrit un pâtre tenant une salière et l'autre descendant de l'échelle. Leur geste fut figé à jamais par la coulée de neige. Fort heureusement, deux individus furent sauvés. Le premier par la poutre maîtresse de la grange, alors qu'il était profondément recueilli dans la lecture de la Bible. Le deuxième faisait téter les génisses, car l'avalanche emporta le toit et la charpente, le laissant vivant. La vallée de l'Artigue d'Esmins est située au pied du versant sud du massif nord-pyrénéen du Bouillerette, au pied du col de la Corre. Ce versant, particulièrement abrupt, dominé par les rochers de Cartignoux, est réputé pour ses redoutables avalanches. Ouverte à l'ouest par le col de la Corre, cette vallée d'Esmins se dirige vers l'est. Lorsque le vent d'ouest venant de l'Atlantique souffle en rafale, il n'y a aucun obstacle à sa progression. Les masses d'air humides canalisées par le versant sud du Bouillerette, c'est le versant nord du massif de la Mède, qui est surmonté par le camp de l'Ars, ont tendance à monter facilitant la condensation de leur humidité, d'où les grosses précipitations et la constitution fréquente d'un important manteau neigeux. L'autre élément climatique explicatif est en rapport avec la caractéristique de la climatologie des Pyrénées centrales. Pour les spécialistes en météorologie, le printemps est sans nul doute la saison la plus désagréable correspondant au maximum pluviométrique. Après une relative accalmie, correspondant généralement au mois de janvier et de février, de violentes bourrasques peuvent se déclencher dès le mois de mars. Pour les climatologues, cette caractéristique induite par l'itinéraire méridional emprunté par les perturbations atlantiques s'accompagne souvent de coups de froid spectaculaires accompagnés d'abondantes chutes de neige. Les anciens ayant connu ces importantes bourrasques de vent d'ouest, surnommées dans le Massatois le Boulbi, évoque avec effroi la formation rapide de congères. Autre élément explicatif, peut-être la présence du vent venu d'Espagne et qui est en fait un mouvement de fun. Ce vent, par essence chaud, amène des relèvements brutaux de température déclenchant la fonte subite des neiges et engendrant inondations et avalanches. N'oublions pas que l'avalanche du 4 avril 1855 a lieu à 4 heures de l'après-midi sur un versant sud, donc exposé au soleil et pouvant être touché par ce phénomène de fun. Après une imposante chute de neige, le redout provoqué par le vent d'Espagne va faire en sorte que la neige de surface se charge de plus en plus en eau. Cette eau va s'infiltrer à travers les couches de neige inférieures jusqu'à se trouver en contact avec le sol ou pendant l'hiver au contact d'une épaisseur de glace. La neige ainsi transformée perd sa cohésion et devient lourde. De plus, la couche d'eau qui s'est infiltrée joue le rôle d'un lubrifiant. Selon les spécialistes, alors qu'en hiver, en période de redout, seule une partie du manteau neigeux tombe, provoquant une avalanche de neige humide ou lourde, au printemps, c'est tout ce qui reste de neige qui s'effondre, laissant le sol à nu. Pour mémoire, sachez que ce jour-là, d'autres communes furent à leur tour touchées. À Saint-Ain, 3 granges renfermaient 34 moutons. Ont été littéralement détruites. À 15 km de ce village de Saint-Ain, une baraque construite par l'administration des mines ont été écrasées. Alertés par le bruit, des ouvriers et des habitants armés de pioches et de pelles ont dû dégager au prix de multiples efforts 3 malheureux ouvriers sans vie. Le quatrième, sorti vivant, devait succomber le lendemain. À RC, ce même jour, une avalanche de neige apporta une grange tuant pâtre et bétail. À Ustoux, un montagnard aurait été surpris en chemin par une bourrasque qui l'aurait, selon les chroniqueurs, enveloppé et précipité dans la rivière. Au port, canton de Massante, une avalanche de 200 mètres de longueur s'est abattue sur un hameau important, emportant donc 2 maisons et 3 granges. 2 filles ont été retrouvées mortes sur les ruines, alors que la mère put être sauvée in extremis. Elle aurait passé 24 heures sous les décombres et la masse neigeuse. Il est légitime de se poser la question, que faisaient ces gens dans cette zone réputée avalancheuse en cette période de l'année? Période, nous venons de le voir, à risque. Après la descente des troupeaux de la montagne, la vie du butail s'organise autour des granges Bourdaus. Chaque exploitant possède plusieurs granges situées à des altitudes et à des distances diverses. Cette répartition, liée à celle des prés, peut monter à Saint-Nac jusqu'à des altitudes de 1500 mètres. La vallée de l'Artigue des Mines, constituant un replat recouvert de dépôts moréniques, constitue à cet égard une zone fertile, propice aux prés. Les longues files de granges s'étageant du village jusqu'au dessous du col de la Corre est à cet égard fort significative. Ses bordes semblent par ailleurs fort anciennes. Le Bourdaus était accompagné d'une cabane munie de cheminée ou d'un simple orifice permettant l'évacuation de la fumée. Après le mois de septembre, le bétail descend de la montagne et s'arrête à ses granges supérieures d'Esmins. Dès la fin du mois d'octobre, le froid arrivant, les troupeaux se répartissent dans les granges situées autour du village. Une partie du cheptel est utilisée pour les différents travaux des champs. Dès le mois de mars, le temps devenant moins rude, les bêtes remontent à l'Artigue d'Esmins afin d'achever la consommation des réserves de foin. Et cela jusqu'au mois d'avril, période nécessitant l'emploi de vaches pour les travaux de printemps. En ce début de printemps, donc, les vachers profitaient de cette halte pour travailler un petit jardin contigu à la grange. Lors de la fenaison, quelques mois plus tard, ils auront à leur disposition choux, pommes de terre, haricots. Ces produits leur éviteront alors des descentes répétées au village pour le ravitaillement. De plus, il était bon de couper du bois avant la montée de la sève. Les chutes de neige abondantes et tardives de ce mois d'avril les ont surpris. Le milieu géographique, nous venons de le voir, n'est qu'un déchaînement de forces dans la nature, sorte de spectacle tragique, fait de foudre, de tempêtes, d'avalanches meurtrières. La piété chrétienne, en maintes occasions, a seulement transcendé des superstitions venues de très loin. Les Pyrénées furent donc le véritable citadelle du magique, l'un des repères préférés des sorcières ou bruxos et des légendes fantastiques. Le fait que notre berger Tarayou ait été sauvé parce qu'il lisait la Bible est fort significatif. cette action de lire un livre saint a contribué à la légende. On peut remarquer que l'annonce de l'avalanche se fait pendant l'office, un lundi de Pâques. Est-ce vrai ou est-ce une légende? En tout état de cause, les prêtres étaient très puissants. Un curé pouvait jeter un sort sur les orages et défier la grêle. La tradition du village évoque le curé de Saint-Eunac lançant une bottine en direction des nuées pour conjurer l'orage, au col de Cachao-des-Guerres. Parfois, il faut bien le dire, le curé était littéralement battu par ses paroissiens s'il refusait d'user de ses pouvoirs pour rejeter un orage. Les messes et autres rites religieux jouaient un grand rôle dans plusieurs types de pratiques magiques destinées à bénir, exorciser, guérir ou mettre fin à un tourment. La plupart des prêtres se prêtaient mal à ces pratiques. La plupart du temps, ils étaient bien obligés de céder sous le poids des pressions ou des menaces des paroissiens. De toute façon, à Saint-Eunac, la tradition orale veut que le curé ait été prévenu, et ça c'est très important, alors qu'il célébrait la messe du lundi de Pâques. Celui-ci aurait alors pris la direction des opérations de secours. Bien sûr, le prélat jouait d'une grande autorité auprès de ses paroissiens. Avec le temps, cette action s'est transformée en véritable acte de bravoure. Le rôle de Marie, qui a progressé malgré l'important manteau neigeux et s'est déchaussée à marcher pieds nus, ce rôle a été transcendé au fil des générations et lui aussi très significatif. Passant pour une femme déception, désormais, elle tranche avec l'image traditionnelle de la femme de cette époque. En ces temps-là, il faut bien le dire, la femme travaillait plus dur, souvent épuisée par les fréquences des couches. Elle était une véritable bête de somme, se reposant rarement. Bien sûr, il est bon de rappeler que les femmes n'avaient pas le droit de chanter à l'église. De même, leur cycle menstruel était consacré par toute une série de rites. Il faut dire que dans les foyers où l'homme était souvent absent, les femmes s'occupaient de fait de la maison et des biens. Elles acquéraient alors une certaine autorité et du respect. De cette tradition, de cette histoire tragique, il ne reste qu'un miracle et une épopée. Cet événement a cependant marqué profondément l'imaginaire de toute une communauté villageoise, et cela pendant des décennies. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.